Bonjour Nicolas Stocker, comment allez-vous ?
Bonjour Arnaud, merci pour la réalisation de cette émission à la technique. Vous êtes sur Radio Courtoisie, bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie à la technique et bien nos bénévoles, que ce soit Patrice ou que ce soit Sylvie, qui sont fidèles au poste. On n'attend pas moins d'eux, c'est ça le bénévolat. Ce qui permet à cette radio de vivre, ce sont vos dons, ce sont les bénévoles, patrons d'émissions, bénévoles en tout genre, qui aident à et contribuent à la vie de cette radio avec l'ensemble des équipes, évidemment, de Radio Courtoisie. Donc, je salue tout le monde. Aujourd'hui, je salue aussi celle qui m'assistera comme pratiquement toutes les semaines, qui n'est autre que Lara. Bonjour ma chère Lara.
Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, chers bénévoles, chers techniciens, bonjour à tout le monde.
Très bien, nous aurons tout à l'heure notre invité qui ne sera, je n'ai pas besoin de le présenter sur Radio Courtoisie depuis les années et les années qu'il officie sur cette radio, c'est Paul-Marie Couteau, qui est aussi le directeur du Nouveau Conservateur et qui sera parmi nous dans un instant, qui d'ailleurs peut-être peut déjà dès à présent, s'il m'entend, me saluer. Bonjour Paul-Marie.
Bonjour Nicolas, je t'entends.
Très bien, eh ben, c'est formidable, tout le monde est là, à l'heure. Prêt pour cette émission qui va démarrer. Nous sommes le 21 mars, jour d'équinoxe de printemps. Jour veille ou plutôt d'élection. Ah, on ne pourra pas faire nos adieux et pleurer à notre drame de Paris, Annie Dingo, qui s'en va, qui va nous quitter. Il est vrai que c'est le deuil des surmulots de Paris qui auront du mal à se remettre du départ d'Anne Hidalgo. On ne doit pas privilégier un candidat sur un autre jour de veille d'élection, le samedi-dimanche qui précède le dimanche des élections. Voilà, nous sommes extrêmement respectueux de la tradition républicaine sur Radio Courtoisie. Nous éviterons évidemment d'en parler. Et il faut dire que pour Paris, on ne parle pas pour la province, avec quelques résultats serrés à attendre et du suspense jusqu'à la fin, jusqu'au très tard dimanche soir, je pense, eh bien, à Paris, pour la première fois depuis fort longtemps que je suis la politique, peut-être même depuis le début, où j'ai pu constater que tout successeur était pire que son prédécesseur en politique, eh bien, c'est la première fois avec la ville de Paris que, quoi qu'il arrive, ça ne pourra pas être pire qu'Anne Hidalgo. Voilà. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le vainqueur du second tour, je pense
que c'est impossible
de faire pire qu'Anne Hidalgo. Paul-Marie n'a pas l'air d'être d'accord.
Quel optimisme.
Oui, oui.
Vous verrez qu'un jour, on la regrettera.
Alors là, j'aurais du mal à l'imaginer.
De même qu'un jour, on regrettera Macron. Vous verrez, vous verrez.
C'est le printemps. Ouais. Ça va être le printemps qui me met dans cet optimisme.
Très bien.
Alors, d'ailleurs, nous sommes, nous, extrêmement disciplinés, contrairement à la gauche, l'extrême gauche, dont on sait qui n'a que ce mot de république à la bouche et qui pourtant en foule aux pieds systématiquement l'ensemble des principes et des valeurs. J'en veux pour preuve que le 14 mars, samedi 14 mars, eh bien, il y avait dans Paris la semaine dernière des meutes de gauchistes qui luttaient et qui manifestaient contre le pseudo-racisme de l'extrême droite, un samedi, veille d'élection. Ça ne dérange personne. Et là, eh bien, nous aurons une marche blanche en mémoire de Naël Merzouk, le petit ange, vous savez, Naël. On se demande même pourquoi d'ailleurs le 21 mars, puisque ça n'a strictement aucun rapport avec sa mort. Mais sa mort. Par contre, il y aura cette marche blanche le 21 mars. Là, quand c'est la gauche, évidemment, la gauche, c'est la République, c'est le camp du bien. Donc, ils ont tous les droits. En parlant de camp du bien, en parlant d'armée la plus morale du monde, j'entends par là, bien sûr, eh bien, c'est le conflit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, dans le Golfe, qui va nous occuper dans cette rapide revue de presse ce matin, dans ce libre journal de géopolitique profonde, chers auditeurs. Je vous rappelle d'ailleurs, n'oubliez pas, pour poser vos questions, vous avez le standard avec Patrice et Sylvie, et sinon vous avez le courriel électronique. Tout ça va m'être donné, et je pourrai évidemment, nous pourrons, comme ce fut le cas la semaine dernière, nous avons passé toute l'émission la semaine dernière avec notre invité Fabrice Sorlin à répondre à vos questions, le tout dans le débat, la diversité du débat. Tout ça fait cette richesse qu'on attend d'une réinformation d'un média alternatif, c'est-à-dire de ne pas singer en sens inverse avec la même doxa, même si elle est inversée, la doxa des médias de grand chemin, mais en essayant d'accueillir la diversité. Et c'est vrai que sur l'Iran, sur cette guerre, il n'y a pas, c'est le moins qu'on puisse dire, unanimité parmi nous, entre cette droite identitaire qui trouve très très bien Israël et qui pense encore qu'Israël est un rempart occidental contre l'islamisme, qui pense que le judéo-christianisme et le christianisme sortira renforcé de la victoire éventuelle au proche et Moyen-Orient d'Israël. Hein, je ne sais pas si ceux qui s'occupent du Saint-Sépulcre, je ne sais pas, alors qu'il est fermé, hein, arbitrairement fermé par les autorités israéliennes. Pour la première fois, peut-être, il n'y aura pas toutes les traditions liées à Pâques. Pâques approche, et le Saint-Sépulcre, les lieux sacrés du christianisme et de l'islam, sont actuellement fermés autoritairement par Israël. C'est certainement une manière aussi d'aider à la protection des chrétiens d'Orient. Eh bien, les chrétiens d'Orient, ils ne fêteront pas Pâques à Jérusalem, ordre des autorités israéliennes, sionistes et israéliennes. Je le verse ça aussi au débat, chers auditeurs. Et je vais tout de suite d'ailleurs demander à Lara ce qu'elle en pense.
Bah écoutez, Nicolas, ça, je pense qu'il faut effectivement verser au dossier. Je pense que ça va aussi accélérer peut-être une crainte, c'est-à-dire que les orthodoxes attendent le feu sacré de Pâques. Et s'il n'y a pas de feu sacré, c'est le signe de la fin des temps. Est-ce que les Israéliens ne précipitent pas par ce biais, justement, cette annonce, en quelque sorte, de la fin des temps pour les chrétiens, en tout cas pour nos frères orthodoxes. Et puis, j'aimerais aussi verser au dossier, je voudrais dénoncer les complotistes, Nicolas. Est-ce que j'ai le droit, sur cette antenne, de dénoncer les complotistes des médias mainstream? J'en vois.
Ah, les complotistes des médias mainstream. Tiens,
oui.
Tiens.
Oui, parce que je vois une masse de complotistes sur les médias mainstream qui dénoncent le fait que Mojtaba Khamenei serait mort puisqu'on n'a pas vu son image.
On le cache, c'est un complot.
Voilà, donc c'est un complotisme assez intéressant pratiqué par les médias mainstream. Je verse au dossier une autre forme de complotisme. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait les drones russes en Ukraine, on disait que c'est des drones iraniens. Les fameux Shahed que les Russes appellent Guérin. Tout à coup, les drones qui frappent le Moyen-Orient s'appellent Guérin puisqu'ils sont envoyés depuis la Russie. C'est les Russes, encore une fois, c'est les Russes. Donc en fait, les mêmes drones qui étaient dits comme étant pas russes en Ukraine deviennent russes lorsqu'il est envoyé depuis l'Iran. C'est très, très, très intéressant tout cela et ça mérite d'être versé au dossier, à mon avis.
Dans l'axe du mal, il est vrai que la Russie joue toujours les premiers rôles.
Toujours.
C'est de la faute en Ukraine, c'est de la faute de la Russie, mais nous la prenons en Iran, au Proche et Moyen-Orient. C'est encore de la faute de la Russie. Et il est partout, mon Macron, l'affreux Poutine. D'ailleurs, Foutriquet, ne tenant qu'à son courage, a encore hier arraisonné un bateau dont il soupçonne eh bien qu'il fasse partie de la fameuse flotte fantôme, flotte interdite parce que n'ayant pas son assurance à la Lloyd, en Grande-Bretagne, hein, c'est les anglo-saxons et le monde occidental considèrent que vous êtes un bateau fantôme et que vous n'êtes pas immatriculé correctement si vous n'êtes pas à la Lloyd. C'est dire espèce de monopole pour un pays, pour un monde capitaliste, c'est assez savoureux. Indéniablement, Paul-Marie, peut-être un mot dans cette revue de presse, on va traiter de plusieurs sujets, donc relativement bref, sur justement la fermeture des lieux saints, en particulier alors que se profile la fin du Ramadan, que à Beyrouth, que au Liban, eh bien, la fin de ce Ramadan, il est fêté sous des tentes de fortune par les musulmans, et puis les fêtes de Pâques, nous sommes en période de carême, eh bien, approchent dans 2 semaines.
Oui, je crois que c'est la première fois que les lieux saints sont fermés depuis longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas si on a daté un précédent. En tous les cas, pas pendant la période de la Covid. Là, pour le coup, en France, oui, mais les églises n'ont pas été fermées en Orient, Proche-Orient. Mais ça fait penser... C'est très gênant pour les catholiques vont en guerre, mais elle est tenante de la civilisation judéo-chrétienne. L'armée israélienne a très souvent frappé des églises. Il y a 2 églises dans la bande de Gaza, elles ont toutes, l'une et l'autre, été détruites. Il y a même eu des blessés au plus fort des bombardements de Gaza, et ça continue au Liban. On ne le dit pas tellement, mais les maronites ont nettement changé de camp. Certes, ils aimeraient que le Hezbollah rentre dans le rang et ne nuise pas à l'unité si fragile du Liban, mais ils regardent maintenant l'armée israélienne comme autant de menaces. Et d'ailleurs, beaucoup d'églises du Liban sont sud du Liban, comme il faut dire, et non pas Liban sud à l'anglo-saxonne, du sud du Liban sont fermés. Et il y a beaucoup d'exactions contre les chrétiens. Il y a même, en Israël, il y a des dispensaires, il y a des institutions charitables de secours aux uns et aux autres qui se trouvent beaucoup plus proches des musulmans, d'abord parce qu'ils les secourent, que des autorités israéliennes qui sont... on a eu beaucoup d'exemples d'ailleurs qui sont en butte au sectarisme du gouvernement Netanyahou. Ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, souvenez-vous la fameuse scène de Jacques Chirac qui essayait de les lieux saints. Et ça s'est renouvelé d'ailleurs avec une visite de notre ministre des Affaires étrangères l'année dernière. Des lieux saints qu'il voulait visiter lui ont été interdits, ont été fermés. Terrible comme la partie chrétienne du Proche-Orient, qui est en principe impartiale et vilipendée, alors que beaucoup de chrétiens en Occident souhaitent la victoire d'Israël, mais Israël n'en bombarde pas moins, ou tout au moins n'en tracasse pas moins, pas toujours des bombardements, les autorités chrétiennes, les communautés chrétiennes au Proche-Orient. C'est très étonnant.
Merci Paul-Marie. Autre thème, toujours sur le Moyen-Orient, Proche-Orient, Iran, États-Unis, Occident. Et cet Occident dont on voit qu'il ne se réduit pas à son bloc occidental, mais va provoquer le chaos un peu partout dans le monde. L'Amérique qui utilise le proxy ukrainien contre la Russie, l'Amérique qui, avec Israël, attaque l'Iran aujourd'hui, et un Donald Trump auquel il est bien difficile de se fier aujourd'hui. Eh bien, dans la même journée, il annonce qu'il refuse un cessez-le-feu pour dire ensuite que la guerre est finie. On est, j'ai l'impression, avec Donald Trump aujourd'hui, soit sur de la sénilité, soit, je dirais, sur un personnage que de toute façon, qui a perdu une part de sa rationalité qu'on a du mal à comprendre. Alors on dit on ne retrouve plus notre Donald Trump, le Donald Trump de 2016, notre Donald Trump qui à nouveau accède au pouvoir en 2025, en janvier 2025. Est-ce finalement lui qui a changé ou bien est-ce que ce sont nos yeux qui se sont décilés?
Je peux intervenir, Nicolas.
Alors rapidement, parce que je voulais normalement le cercle, c'est Lara et toi, mais vas-y, je te laisse intervenir et après Lara.
D'un mot, rappelons-nous quand même que c'est le premier Trump qui a suspendu l'accord sur le nucléaire de 2015, on le rappelle assez souvent, mais on n'en tire pas la conclusion que déjà le président Trump avait une sorte de fixette, peut-être avec des arrière-plans théologiques, justement, en tous les cas.
Oui.
Contre l'Iran. Il n'était pas si pacifique que ça, hein, ce président du premier mandat. Il ne faut pas croire. Il avait bombardé la Syrie aussi. Et il n'avait jamais arrêté les délires de sécession ukrainienne.
Tout à fait. Et d'ailleurs, là, j'ai vu qu'Israël avait à nouveau bombardé la Syrie. Israël porte le chaos tout autour de lui. Alors, certains souhaiteraient que la politique de la France emprunte à la politique d'Israël. Ce serait assez cocasse. En effet, nous bombardierons un jour la Grande-Bretagne, le lendemain l'Allemagne et le troisième jour l'Italie ou l'Espagne. Parce que c'est ça, Israël, aujourd'hui, c'est porter le chaos sur l'ensemble de ses voisins et au-delà de ses voisins, puisqu'il n'y a même pas de frontière commune entre l'Iran. Enfin, pas encore. Après, avec le Grand Israël, peut-être. Il n'y a pas de frontière entre l'Iran et Israël. Lara, sur Trump.
Oui, Nicolas, et je rajouterais pour compléter un petit peu cette vision de Trump qu'on avait, finalement, lorsqu'il a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem, c'était aussi un acte très fort parce que c'était reconnaître le statut de capitale d'Israël à la ville de Jérusalem, qui devait rester quand même une ville neutre. Donc ça, c'est aussi Donald Trump. Est-ce que nous n'étions pas justement, comment dire, trompés par le climat qui régnait autour de Donald Trump avec les procédures d'impeachment, le Russiagate qui faisait que on pensait qu'il était ce qu'il était, alors qu'en réalité, il avait les mains liées. C'est peut-être ça la réponse. Moi, je commence à pencher plutôt vers ce côté-là. Et puis, encore une fois, disons les Français, la droite française qui soutient aujourd'hui ce conflit que d'un côté et qui considère que Israël se bat pour nos valeurs, je l'invite à vraiment regarder de près.
Israël a le droit de se défendre, c'est un mantra. Voilà, même quand
oui, Nicolas, mais
d'attaquer la Turquie,
de défendre, qui se transforme en guerre préventive et puis par ailleurs n'empêche pas Israël de participer au massacre des Arméniens, à la chasse des Arméniens des terres chrétiennes.
Mais Israël a le droit de se défendre. Là.
Mais Nicolas, Israël n'avait aucun intérêt dans cette partie du monde-là, a priori aucune frontière commune, même lorsqu'elle n'est pas dessinée. Il n'y avait aucune raison qu'Israël y retrouve un intérêt. Seul intérêt à ce moment-là, c'était une forme de laboratoire vis-à-vis de l'opinion mondiale sur un conflit et sur un déplacement de population en masse. Et ça a fonctionné.
Bien, de toute façon, voilà, ce conflit est en cours et à mon avis, il ne s'arrêtera pas demain. Il est maintenant, comme l'a dit Paul-Marie Couteau, je pense qu'il y a quelque chose de particulier, de spécifique chez Trump vis-à-vis de l'Iran et qu'il veut absolument le trophée, le scalp iranien. Et comme il ne l'aura pas, eh bien, cette guerre va durer et elle risque d'enfoncer l'Occident dans une crise majeure, crise énergétique, crise économique, crise financière, à mon avis, dont on peut se demander si cette guerre ne sera pas la guerre de trop pour l'Occident, le tombeau de celui-ci, ce qui ne nous dérangera pas avec Paul-Marie, puisque nous n'aimons pas ce concept d'Occident, et nous défendons entre autres l'idée d'une France civilisation, d'une Europe avec des États-nations qui sont en elles-mêmes une civilisation. Il n'y a pas besoin d'invoquer le concept d'Occident. Lara.
Nicolas, vous avez cité les crises, multiples crises qui peuvent toucher l'Occident, mais il y en a une qui va toucher le tiers-monde, l'Afrique, l'Amérique latine, les populations pauvres qui ont besoin d'engrais. Ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que les engrais ne peuvent pas sortir. On est en période cruciale pour justement…
Plus de 25% des engrais sont fabriqués dans la région et sont bloqués dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui, alors qu'on rentre dans la période des semailles où les engrais sont nécessaires.
Exactement. Et il y a des projections qui sont déjà faites sur, avec des sociétés qui travaillent justement sur ce genre de cataclysme. Si d'ici fin avril n'est pas résolue cette question justement de sortie des engrais vers les pays, c'est surtout le tiers-monde qui se sert là-bas, c'est vers l'Afrique que ça va. Mais si donc ce n'est pas réglé, on risque d'avoir jusqu'à 300 millions de morts de faim dans le monde. C'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui, c'est que nous sommes à la veille peut-être d'une catastrophe mondiale d'ampleur
alimentaire.
Elle est alimentaire d'ampleur inédite.
Oui, tout à fait. Dernier point que je voulais évoquer dans cette revue de presse avant d'échanger avec Paul-Marie Couteau sur le sujet résistance et spiritualité sur Radio Courtoisie dans ce livre journal de géopolitique profonde, c'est le sujet du grand méchant russe qui alerte, qui avertit tout pays qui sera pris à trafiquer avec l'Ukraine en matière nucléaire, d'apporter la technologie ou voire même des bombes ou des éléments de bombes nucléaires à l'Ukraine, sera immédiatement frappé, et on peut imaginer frapper nucléairement. C'est un avertissement extrêmement clair au plus haut sommet du Kremlin.
Oui, Nicolas. C'est à moi de répondre ?
Oui, je vais vous demander de réagir d'abord, si vous voulez bien.
Écoutez, cette mise au point vient d'une façon assez surprenante après que le SVR avait averti que la France et la Grande-Bretagne étaient en négociation sur une possible transmission à l'Ukraine de matière radioactive.
D'éléments de bombes nucléaires même.
Éléments de bombes nucléaires ou matière radioactive pour une bombe sale. En tout cas, ça a été dénoncé par les services secrets. Peut-être que de ce côté-là, ça s'est arrêté. Ou alors, il fallait un avertissement supplémentaire pour dire que c'est le pays qui donnera cette matière qui sera la cible d'une frappe. Après, la Russie, n'oubliez pas, Nicolas, aujourd'hui, la Russie a la possibilité de frapper d'une façon non nucléaire, mais d'une façon très impressionnante avec ses oléchniks. Ils nous ont fait la démonstration. C'était pas du cirque. Ils ont bien montré que c'est possible de frapper non nucléairement, mais avec une précision et d'une impossibilité d'interception d'un pays.
Oui, d'ailleurs, donc c'est une mise en garde mondiale qui ne vise pas seulement la France et la Grande-Bretagne.
D'autres seraient peut-être tentés aujourd'hui de le faire pour justement. Quand vous regardez.
Au premier chef, certains auditeurs très pro-israéliens vont encore pester, mais au premier chef d'Israël, Israël détient des bombes nucléaires tout en disant ne pas en détenir. C'est le seul pays qui s'est toujours totalement.
Les rapports de l'AIEA.
N'est pas dans les traités de non-prolifération, n'a jamais fait inspecter, c'est un pays exceptionnel, c'est un pays au sens exception, qui donc détient des armes nucléaires, on le sait, plusieurs dizaines de bombes nucléaires, et Israël pourrait, on le sait, Israël est très hostile, malgré la façade, à la Russie de Poutine. On l'a vu dans l'aide à l'Ukraine, l'aide à l'Azerbaïdjan par rapport à l'Arménie. Israël n'est pas du tout, est loin d'être un proche allié de la Russie. Et pour des raisons de billard à plusieurs bandes, il faut s'attendre à tout de la part de ce pays, et peut-être aussi de collaboration entre l'Ukraine et Israël que l'on n'imagine même pas.
Et Nicolas, nous avons aujourd'hui l'Ukraine avec Zelensky à sa tête qui fait tout pour que lorsqu'on dit Iran, on pense à l'Ukraine. C'est même son aveu personnel. Il a déjà envoyé près de 200 officiers ukrainiens pour aider les pays à intercepter les drones parce qu'ils ont cette expérience et pas les autres pays. Et par ailleurs, je rappelle aussi que malgré tout ce qu'on peut dire, Poutine est extrêmement prudent en ce qui concerne Israël parce qu'il sait qu'une grande majorité, une grande communauté russe y habite. Donc, ce n'est pas un pays qu'il peut considérer avec son peuple comme étant hostile à la Russie. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font que la Russie est presque les mains liées vis-à-vis d'Israël et la possibilité à Israël de jouer sur
et
tous
les sionistes
pour
en profitent.
Affaiblir.
Et voilà. Les sionistes en profitent.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
En particulier les sionistes révisionnistes, c'est-à-dire cette extrême droite sioniste qui, au-delà même du Likoud aujourd'hui, avec des Ben-Gvir, avec des Smotrich, même avec des Netanyahou, transforme Israël en un État prédateur extrêmement dangereux pour ses voisins, et pas seulement pour ses voisins, mais pour la paix dans le monde, je le crains.
Quand on voit, Nicolas, qu'on cherche ici à dénoncer le radicalisme religieux, mais qu'on voit les prêches de Paula White avec Donald Trump, on a l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique parce que ça dépasse l'entendement, cette façon de prêcher. Et puis, par ailleurs, quand on voit les rabbins qui font des prêches aujourd'hui en parlant du fait qu'il faut souffrir davantage pour que Mashiach vienne, ça, c'est insupportable. Dénonçons tous les radicalismes religieux, puisque nous voyons où est le mal. Il n'est pas que d'un côté, il n'y a pas qu'une religion qui représente le mal. En fait, il n'y a pas une religion qui représente. C'est partout le radicalisme religieux qui est très dangereux. À mon sens, hein, je s'en engage que moi.
Merci beaucoup, Lara, pour cette intervention dans ce livre journal de géopolitique profonde. Je pose une question générale et comme ça, on va passer de la revue de presse qui va s'achever maintenant à l'échange avec Paul-Marie Couteau. Vous pouvez déjà réagir, mon cher Paul-Marie, à ce que vous venez d'entendre.
Un petit mot peut-être sur la question nucléaire parce que
oui,
elle aussi fait froid dans le dos. Ce que je crains par-dessus tout, et je ne suis pas le seul, c'est la miniaturisation de l'atome,
oui,
qui permettrait non seulement une prolifération rapide, c'est-à-dire l'accession de nouveaux États à l'arme atomique, et son utilisation, qui n'aurait plus rien de sacré. Elle est utile, l'arme atomique, en ce qu'elle ne sert pas. Bon, on le sait, c'est une menace. Parce que le cataclysme serait beaucoup trop grand. Mais à partir du moment où l'atome est minutarisé, utilisable par n'importe qui, soit dit par parenthèse, il pourrait même être utilisé par des armées privées, car le 21e siècle sera peut-être, ou est peut-être déjà, le siècle des armées privées, c'est ça qui fait le froid dans le dos. Mais à partir du moment où elle peut être utilisée plus facilement sur un champ de bataille, et ne pas provoquer la déflagration que l'on n'envisage pas, et c'est pourquoi on ne s'en sert pas, à ce moment-là, elle pourrait être utilisée comme n'importe quelle autre arme. Et évidemment, ça désigne un avenir très périlleux pour l'humanité entière, encore une fois.
Oui, bien d'accord. Alors, Paul-Marie, peut-être dorénavant échanger sur cette question de résistance et spiritualité. En effet, la résistance ne sera pas purement matérielle, ce ne sera pas plus de policiers, plus de frontières, plus de tous ces moyens matériels qui permettraient à une nation de se maintenir et de survivre dans un monde chaotique. Mais il y a cette dimension qui est, c'est vrai, souvent négligée par notre camp, par les souverainistes et même parfois par les gaullistes et qui est pourtant essentielle, c'est-à-dire une dimension spirituelle, en particulier dans un monde où aujourd'hui, justement, eh bien, c'est ce que nous avons vu dans cette revue de presse, la religion et le fondamentalisme religieux prend un tournant inquiétant, c'est vrai, depuis fort longtemps d'un islamisme radical, on en convient bien évidemment. C'est vrai aussi d'un de la religion hébraïque des fondamentalistes dont nous avons parlé, à la fois du sionisme révisionnisme qui est eschatologique, qui est millénariste, et ce qui vient s'ajouter, et il faut bien le dire, s'associer à cela, c'est-à-dire eh bien un fondamentalisme protestant, de sectes protestantes qui pullulent en particulier aux États-Unis. On en veut pour preuve ce que Lara a dit sur cette prédicatrice qui est la conseillère pour la foi de Donald Trump à la Maison-Blanche, du ministre de la guerre, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler dorénavant, Pete Hegseth, qui lui-même eh bien, est un fondamentaliste, un extrémiste religieux, protestant à nouveau. Tout ça existe et il faut répondre aussi à cet enjeu pour vous, Paul-Marie.
Oui, c'est bien d'avoir évoqué le général de Gaulle. Je rappelle qu'à de multiples reprises, y compris à Londres, de Gaulle faisait dire des tédéums. Par exemple, le soir de la victoire de Pierre Hakeim, il a fait dire à l'église française de Londres un tédéum retentissant, parce qu'il y avait beaucoup de monde, on était très émus, c'était la première victoire de la France libre. Ça me rappelle une vieille tradition, alors il faut bien penser à cela. Une vieille tradition française, un dicton du Moyen-Âge, le roi dort près du livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout confusion, et là je voudrais insister là-dessus, entre les deux ordres, l'ordre du politique et l'ordre du religieux. Tout tourne toujours autour de la question de la laïcité qui est tellement importante. Il n'y a pas d'opposition non plus, c'est-à-dire que l'un peut s'appuyer sur l'autre ou l'invoquer. Il n'y a pas de confusion. C'est très particulier, d'ailleurs, on peut dire l'idiosyncrasie française, bien avant la République, d'ailleurs, le roi se refusait, d'ailleurs, il n'avait pas de fonction sacerdotale, à la différence de l'empereur germanique, d'ailleurs. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit, mais c'était très intéressant de montrer la portée de cette distinction. L'empereur d'Allemagne et le roi de France ne voulaient pas se rencontrer. En tous les cas, le roi de France rechignait à une rencontre avec l'empereur parce que, comme en toute grande occasion, on disait à ce moment-là des messes et l'empereur officier, ce qu'a fait Othon, par exemple, qui avait beaucoup froissé Louis VI, c'est l'empereur qui officiait et le roi de France n'était qu'un fidèle parmi les fidèles. Mais ça avait aussi un avantage, c'est que l'on distinguait les deux ordres. Et je voudrais insister sur le mot « distinction », parce que de cette distinction des deux ordres politiques et religieux procède un dualisme qui est fondamental à comprendre dans le terme « religion », tel que nous l'entendons. Mmh. Il n'y a pas de confusion entre l'ici-bas et l'au-delà. Il y a une distinction nette, et ça c'est une grande vertu du catholicisme, qu'il faut retrouver, parce que pendant très longtemps, on a mis sous le boisseau cette dimension religieuse, la République l'a voulu, la loi de séparation de 1905 l'a théorisée, on a pendant très longtemps aussi submergé la question politique de considération économique. C'est la grande vogue du marxisme. On avait écarté toute cette dimension qui revient au grand galop. C'est d'ailleurs assez frappant parce que quand vous avez fait des études comme moi, mon cher Nicolas, je pense qu'on se polarisait beaucoup sur les questions économiques. Et quand on a instruit, par exemple, la critique de l'Union européenne, on s'est fondé sur des questions économiques, la suppression des services publics, le budget, l'endettement, etc., peu à peu, ces questions n'ont pas passé au second plan, mais en tout cas sont très concurrencées par des questions qui étaient à ce moment-là extra-politiques, c'est-à-dire des questions religieuses. L'utilité de bien préciser, parce que chez nous, chez les catholiques en tous les cas, la confusion entre alors évidemment, l'image vient tout de suite à l'esprit, entre César et Dieu est permanente. Et elle correspond justement à une distinction de deux ordres très précis, l'ordre du surnaturel, de l'invisible, de la transcendance, ne se confond pas avec l'ordre de ce qui est visible, de l'immanence, c'est-à-dire de la vie des hommes sur Terre. Et ce à quoi nous assistons depuis quelques années, c'est à la montée. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que nous sommes de ce point de vue-là, y compris sur ce terrain religieux, pour bien nous situer dans l'histoire et dans le cheminement politique. Il y a eu SOS Racisme, il y a eu la montée en puissance d'une religion, l'islam, qui confondait les deux ordres. Mais c'est pareil pour cette confusion se retrouve dans les puissances dites occidentales, en fait protestantes. C'est pour ça que je n'aime pas ce mot occident, parce que je crois qu'il y a un grand schisme en Occident, un autre grand schisme. Tout ce qui est le protestantisme, au fond, se lit beaucoup comme historiquement comme la sortie du christianisme. Mmh. Voilà. Et tous ces pays protestants, ça va des pays baltes ou de la Norvège jusqu'à la Californie, en passant par l'Allemagne, en passant bien entendu par la Grande-Bretagne, qui est un peu le centre de ce monde occidental, obéit à une logique, au fond, assez désacralisée, en tous les cas, détranscendatilisée, enfin, qui est sortie de la conscience d'une transcendance, pour passer à un dieu qui serait efficient, à un dieu qui aurait des troupes, si vous voulez, un dieu que l'on peut invoquer pour la guerre. Mmh. Le pape a été assez précis dimanche dernier. J'espère qu'il renouvellera demain ses admonestations en demandant implicitement au pouvoir états-unien de ne pas invoquer Dieu pour faire une guerre dont il laissait entendre qu'elle était dépourvue de légitimité, notre pape. Je voudrais qu'il soit encore plus net un jour ou l'autre. Ça, c'est assez important. C'est vraiment très important que l'on distingue bien deux types de religions, celles qui confondent le spirituel et le temporel, et celles qui, comme nous, le distinguent. Voilà. Et ces messianismes-là, d'ailleurs, il y a une conjonction de deux messianismes en ce moment. C'est ça qui rend la situation si terrible. Enfin, ils communiquent sur la parousie, l'idée qu'il y aura un jour un nouveau Jérusalem, enfin une Jérusalem terrestre. C'est ça, la Jérusalem terrestre, c'est justement la confusion entre les deux ordres, hein, entre mm-hmm. la transcendance. C'est la Jérusalem terrestre des Juifs et la Jérusalem terrestre des protestants, et spécialement des évangélistes qu'on a oui. dans le bureau ovale. C'est vraiment deux conceptions de la religion. Il faut peut-être même utiliser des termes différents, parce que la religion qui est détachée de la transcendance n'a pas du tout la même fonction politique, n'a pas du tout les mêmes effets politiques qu'une religion qui, elle, la nôtre par exemple, délimite bien le domaine de l'immanence, des affaires terrestres, si vous voulez, sans intervention permanente d'un Dieu qui, justement, a un rôle indirect, mais d'autant plus puissant qu'il est lointain, parce qu'il rend les hommes à leur pauvreté, il rend les hommes, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui évite le totalitarisme, à une certaine solitude, à une certaine misère. Nous sommes en plein carême, venant de dépasser mi-carême, carême qui a commencé par cet acte et cette parole le jour du mercredi des cendres, quand on est loin sur le front. Le prêtre nous dit « N'oublie pas que tu es poussière et que tu reviendras poussière. Mmh. » C'est cela la vraie fonction de la religion. Dans l'acception latine catholique, nous renvoyons à notre solitude et nous interdisons de confondre les deux ordres, les deux mondes, si vous voulez. Les arrière-mondes, comme disait Nietzsche, qui sont un dieu aveugle, sourd, comme disait Alfred de Vigny, aveugle et sourd aux cris des créatures, un Dieu très lointain, mais dont on a la conscience et dont on observe les signes, et un Dieu efficace, immédiat, enrôlé dans la politique, enrôlé dans la guerre, ce qui est à la fois le cas des musulmans, de la cosmogonie hébraïque, et du protestantisme. Et c'est cette conjonction-là qui rend le monde, à mon avis, infernal. Il est sage dans la mesure où le politique, notamment à travers des nations, qui est une forme très relative du politique non impérial, sont rendus à la misère de la politique, à la misère de l'homme, à ses limites, si vous voulez. Ses limites par la conscience d'un au-delà. C'est vraiment deux conceptions de la religion différentes. Et je crois que, puisque le débat politique revient, constatons-le, dans le débat politique revient la question théologique, c'est le moment de serrer nos boulons et de savoir ce qu'est pour nous une religion qui n'a pas du tout le sens qu'elle a pris après les multiples dérives du protestantisme et de même dans l'islam et en Israël. Voilà. Nous sommes assez seuls finalement, les latins. Peut-être que les orthodoxes ont la même conception. Et ce lien entre les latins et les orthodoxes doit être d'autant plus maintenu que nous sommes entourés de religions infernales, si vous voulez.
C'est-à-dire... Alors, Paul-Marie, d'abord, pour clore le questionnement qu'il aurait pu y avoir sur la revue de presse par les auditeurs, une auditrice qui fait la remarque suivante, qui n'est pas faux. Cette remarque. Les engrais artificiels ne font que détruire la terre. Une réflexion sur un respect de la terre par des pratiques naturelles serait la bienvenue. Le bio et la biodynamie existent, certes, mais pour tout ce monde qui a besoin de se nourrir aujourd'hui, avant d'en arriver à la biodynamie, il va falloir nourrir l'humanité. Et donc, il y a un problème alimentaire qui risque très rapidement de se poser suite au blocus du détroit d'Ormuz. Un autre auditeur qui répond en quelque sorte à la question taquine qui est la sienne. Lara condamne tout, tous les radicalismes religieux. Qu'entend-elle par là? Inclut-elle les catholiques de tradition? Je pense que nous avons affaire justement à un catholique de tradition. Je lui renvoie la question, se considère-t-il, lui, comme un radical religieux? Je ne le pense pas, sinon il ne poserait pas la question. La réponse est donc donnée sur ce sujet.
Mais c'est un peu ce que je viens de dire.
Tout à fait.
Il faut bien distinguer deux types de religions. Il faudrait même trouver deux mots. Celles qui font la part à la transcendance et à un monde de l'au-delà qui n'intervient pas dans les affaires terrestres, et celles qui, au contraire, enrôlent la religion, enrôle Dieu au service d'un messianisme, c'est-à-dire d'une cause politique.
Exactement. Alors, il y a ceux
pour dire que les intégristes catholiques sont justement ceux qui distinguent les deux ordres et qui ne doivent même pas être appelés intégristes.
Et on est d'accord, Paul-Marie. Il y en a qui veulent enrôler Dieu dans leur combat. Il y a cette prédicatrice, conseillère à la foi à la Maison-Blanche, qui explique que dire non à Trump aujourd'hui, c'est dire non à Dieu. Il y a Netanyahou aussi qui, dans une conférence de presse il y a 2 jours, disait « Jésus-Christ n'a aucun avantage sur Gengis Khan, car si on est suffisamment fort, suffisamment impitoyable, suffisamment puissant, le mal triomphera du bien ». Ah, Gengis Khan, Paul-Marie Couteau, qui a l'avantage sur Jésus-Christ, selon Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous répondez au Premier ministre israélien?
Je ne vois pas très bien où il va chercher cette référence, mais enfin, je crois qu'il fait feu de tout bois, le Premier ministre israélien. Il y a quelque chose d'étonnant, finalement, on ne s'en est pas aperçu, dans la différence des cosmogonies, des représentations du monde entre les dirigeants occidentaux. Vraiment, pour faire de telles réflexions, il faut être très, 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 très éloigné de notre représentation du monde à nous. Parenthèse, j'en profite pour insister sur l'imposture qui est le thème apparu dans les années 70 du judéo-christianisme. Parce que là, pour le coup, il y a une opposition fondamentale entre les deux représentations du monde. Alors, c'est un thème évidemment utilisé par beaucoup de gens récemment, par Éric Zemmour, pour embarquer les catholiques, les chrétiens, mais surtout les catholiques, dans les affaires du Proche-Orient. Mais il faut y résister, bien entendu. Mais Netanyahou est capable de dire des choses incroyables. Hein. Je ne commente pas nécessairement cette phrase. On la laisse dériver vers son néant, si on peut dire. Mais Netanyahou a dit des choses. Il faut revenir sur certains morceaux choisis de Netanyahou qui fait vraiment d'Israël un peu comme les États-Unis avec la manifeste destinée. C'est ça le problème, c'est qu'on a affaire à deux messianismes très conjugués là, en ce moment. Et on comprend ce qui lie d'ailleurs ces deux pays, les États-Unis version évangéliste et Israël version messianique. Netanyahou a dit des choses sur la manifeste destinée d'Israël, la mission d'Israël, peuple élu qui doit sauver l'humanité, qui sont confondantes au fond de simplisme pour nous. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué le catholicisme. C'est infiniment plus relatif et ça nous interdit des phrases que l'on trouve couramment dans la bouche des messianistes. On est beaucoup plus... C'est pour ça qu'on est piétiné, parce qu'on est plus compliqué à comprendre d'une certaine façon. Il n'y a rien de plus simple que l'islam comme théologie d'une certaine façon. J'exagère un peu, mais toutes ces théologies messianiques sont d'une simplicité, j'allais dire enfantine, peut-être infantile plutôt. La théologie chrétienne au sens catholique est infiniment plus compliquée.
On est bien d'accord. Cette auditrice qui pense quand même que eh bien, l'objectif, c'est de faire la peau du christianisme, pas qu'est la période parfaite pour montrer qu'Israël eh bien, exige la fermeture du Saint-Sépulcre, guerre oblige, soi-disant, bien que cette dernière soit faite par Israël. Voilà.
Christianisme, je me demande si maintenant il ne faut pas rejeter toute pudeur et parler précisément de ce qu'on entend le plus souvent par christianisme, c'est-à-dire de l'Église, le catholicisme, en ne confondant pas le catholicisme au sein de la grande famille chrétienne avec toutes ces sectes qui sont plus ou moins protestantes et dont je répète qu'elles sont une porte de sortie du christianisme, en tous les cas de la chrétienté. Ce n'est pas un hasard si on est passé au terme Occident au début du XXe siècle, en pleine laïcisation, si vous voulez, de la politique, pour ne plus parler de ce qu'on a appelé pendant très longtemps, sous l'Ancien Régime en tout cas, non pas l'Occident, mais la chrétienté. Voilà.
Merci Paul-Marie. On fait ce court bobino, cette courte pause, et on revient tout de suite après, si vous voulez bien, chers auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, n'oubliez pas, chers auditeurs de Radio Courtoisie, d'aider votre radio, elle a besoin de vous. C'est de vous que dépend la vie de Radio Courtoisie. Nous sommes dans ce libre journal de géopolitique profonde en direct et avec notre invité du jour qui n'est autre que Paul-Marie Couteau, le directeur du Nouveau Conservateur, la revue. Alors, Paul-Marie, peut-être aller un peu plus loin dans le sujet résistance et spiritualité. En quoi la spiritualité est si essentielle à la résistance dans le monde d'aujourd'hui ?
Eh bien d'abord, parce qu'il faut éviter le désespoir. Dans les conversations souvent assez profondes qu'il a eues avec son jeune aide-de-camp Claude Guy, le général de Gaulle revient souvent sur la question religieuse, beaucoup plus souvent, par exemple, que dans d'autres dialogues qui font référence, dont on use beaucoup, je ne pense pas qu'on en abuse, mais on use beaucoup, c'est les conversations avec Alain Perfit. On connaît moins les conversations avec Claude Guy, qui est un jeune... lieutenant qui est resté auprès de lui après son départ de janvier 1946, quand il est rentré à Colombey. Ce jeune homme a vécu à Colombey pendant plusieurs années comme aide de camp du général, mais c'était un peu son confident, le but étant de faire en sorte qu'il ait quelqu'un sous la main et qu'il ait aussi, d'ailleurs il s'entendait très bien, ce jeune homme et le général vieillissant déjà, qu'il ait quelqu'un à qui parler. Et le livre de Claude Guy, que ce personnage a eu la délicatesse de ne pas publier, ni de son vivant, ni du vivant du général, bien sûr, mais même pas de son vivant, il l'a publié en 1995, il l'avait confié aux éditions Grasset, c'est un livre très très intéressant, méconnu, paru en 95. De Gaulle revient souvent sur la question religieuse et à deux reprises, dans cet ouvrage assez consistant, qui fait quelque chose comme 500 pages, on entend dire « l'homme moderne est un désespéré ». C'est une phrase étonnante, mais c'est une phrase d'une portée immense. Il dit ça aux alentours de l'année 50, je ne sais pas exactement la date, mais ça a une résonance terrible aujourd'hui. Pourquoi la résistance doit... Alors quand je dis la résistance, c'est la nébuleuse, c'est ce que nous sommes tous, c'est ceux qui résistent au système, qui résistent au prêchi-prêcha sur l'Ukraine, au prêchi-prêcha sur la Covid, au prêchi-prêcha sur le... sur le Proche-Orient, ceux qui résistent au discours officiel dominant et impérial doivent mettre cette flèche dans l'arc arquois, à mon avis, la dimension spirituelle, parce que ce à quoi nous avons affaire, au fond, c'est un nihilisme, et ce qui fait qui est très étendu, qui glisse dans tous les interstices, et ce qui fait que beaucoup de nos compatriotes ne réagissent pas, c'est qu'ils ont perdu l'alpha et l'oméga, ils ont perdu la transcendance, ils ont perdu avec la transcendance les valeurs, et ils ont perdu le courage de s'opposer. Ils y arrivent. D'ailleurs, c'était assez étonnant, pendant la crise du Covid, les catholiques, d'une manière générale, ont beaucoup plus réagi que les autres. Vous avez remarqué... Professeur Henri Code est une militante catholique, Fouché est un militant catholique, enfin c'était très étonnant. Les catholiques ont obtenu la réouverture très vite par la voix du Parti chrétien-démocrate de Poisson, la réouverture des églises. Et puis dans ces
non,
églises...
c'est pas l'église catholique en elle-même, c'est, ah non, pas, la tra... pas, c'est pas le Saint-Siège non plus, qui non, a été au contraire... totalement inféodé.
À... J'ai quand même observé chez beaucoup de prêtres une bénévolence silencieuse pour des assistances qui étaient censées mettre des masques et qui n'en mettaient pas. Bon, ça dépend des prêtres, mais...
Et des églises, hein. J'ai vu plus d'une église où il fallait se séparer, il y avait des distances de sécurité, des gestes barrières dans les églises catholiques.
Mais ils n'étaient pas très respectés, souvenez-vous.
Et a été sévèrement puni, le malheureux
oui, parce que justement, ils ne respectaient pas.
Saint-Eugène, Sainte-Cécile.
De Saint-Eugène, oui, absolument. Mais justement,
par sa hiérarchie, la hiérarchie de l'archevêché de Paris a sanctionné ce prêtre qui avait le malheur de ne pas imposer de masque à ses ouailles et qui donnait l'hostie dans la bouche.
J'ai assisté à des messes très étonnantes. Je crois que c'est Noël 90. Bon, il est vrai que c'était Saint-Nicolas du Chardonnay plein à craquer. Pour la messe de Noël, on comptait sur les doigts de la main, le nombre des fidèles qui avaient des masques. 98%, rompant avec la consigne, n'avaient pas de masque. Mmh. Et la messe a quand même été dite. Bon, c'est peut-être un peu particulier, mais enfin, j'ai vu ça aussi dans ma paroisse de Charente où j'habitais à ce moment-là. Il y avait un masque sur deux et le prêtre ne disait rien. Notamment quand on allait à la communion, parce que quand on va à la communion par la bouche, n'est-ce pas, il ne fallait pas mettre de masque. Bref, il y a eu tout de même une résistance, l'armée des catholiques. Je dis ça parce que ça, c'est très important. Parce que si nous voulons être une force d'opposition, il faut que nous nous opposions avec l'ensemble de nos valeurs et de nos forces, et justement pour déjouer ce nihilisme, ce scepticisme, ce désespoir qui est souvent celui des Français qui ne réagissent pas parce qu'ils ont perdu toute espérance. Alors il faut distinguer évidemment le désespoir et la désespérance. On peut avoir perdu tout espoir mais garder l'espérance. C'est une distinction théologique que seuls les chrétiens peuvent comprendre. En tous les cas, si l'homme moderne est un désespéré, comme disait le général de Gaulle, nous ne ferons rien, nous, résistants, si nous sommes désespérés. Et notre première mission, c'est justement de secouer nos contemporains pour dire que même si l'horizon est très bouché, il ne faut jamais désespérer. Il n'y a pas que notre Sainte Mère, l'Église, qui est une institution de réespérance, mais la phrase de Charles Maurras doit claquer à toutes nos oreilles. Le désespoir en politique est une sottise absolue. Le désespoir absolu est une sottise absolue. Donc, il faut ne pas avoir peur en sortant de cette période très, comment peut-on dire, très économiste, très matérialiste, nos autres résistants, d'invoquer nous aussi nos valeurs les plus profondes en faisant attention à ne pas verser dans le messianisme. Mais nous en sommes loin chez les catholiques quand même.
Oui, nous en sommes loin avec les catholiques, oui, c'est tout à fait évident. En quoi Paul-Marie qui s'en va…
Je ne m'en vais pas. J'interromps un téléphone qui risque de sonner.
Allez, moi, je gère en même temps quelques menus problèmes techniques. Alors, on va quand même essayer de continuer cette émission jusqu'au bout. Chers auditeurs, vous êtes dans le livre journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie et le thème de l'émission avec Paul-Marie Couteau. Pour ceux qui prendraient cette émission en cours, eh bien, il s'agit de résistance et spiritualité. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a manqué cette spiritualité, par exemple, chez les Gilets jaunes et que finalement, c'est peut-être la raison qui fait que ce mouvement l'a pas emporté, oui, ou n'a pas porté les fruits qu'on pouvait espérer qu'il porte.
C'est tout à fait vrai, encore que je pense au premier leader du mouvement, qui était Jacqueline Mourot, et qui, elle, était une spiritualiste presque professionnelle.
Oui, mais regardez cette séparation entre ces deux grands mouvements, l'un du quinquennat Hollande et l'autre du quinquennat Macron, c'est-à-dire la Manif pour tous pour Hollande et les Gilets jaunes pour Macron. On a l'impression que ces deux mouvements auraient dû n'en faire qu'un.
Oui, j'aurais bien aimé, mais de toute façon, c'était deux échecs. Hein. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas survolté le moteur de la résistance, voilà. On voit bien de temps en temps des invocations, des petits faits qui font chaud au cœur, comme le fait que les églises se re-remplissent. Alors c'est très, très étonnant ça, et notamment à la période de carême. Le carême étant très parlant, parce que s'il y a beaucoup de jeunes aux manifestations du carême, à commencer par la messe du mercredi des cendres, je crois que j'ai raconté ici, ou je ne sais plus où, que je n'ai même pas trouvé de place à Saint-Germain-des-Prés, ce qui ne m'était vraiment jamais arrivé. C'était bondé, archibondé avec des jeunes, c'est parce que l'Église est aussi dans sa dimension de tempérance, d'exercice de frugalité, une réponse au dégoût de la surconsommation de masse qui dégoûte beaucoup les jeunes. Bon, déjà, il y a cette réponse spirituelle qui est le refus de la consommation à outrance. Et ça fait partie du programme de la résistance. Je salue d'ailleurs l'auditeur qui a évoqué la nécessité de changer complètement de modèle agricole. Ça, c'est un autre signe d'espérance qui se passe dans les campagnes, des fermes bio, des petits groupes de gens qui s'unissent pour retrouver une agriculture à l'ancienne, artisanale, comme on dit. Ça, c'est des petits pôles de résistance que l'on voit un peu partout sur le territoire, enfin, si on veut bien les regarder. Et ça, je répète, il n'y a pas de force plus grande pour ceux qui résistent que ce renvoi à nos valeurs qui ne sont pas nécessairement très éloignées des valeurs laïques, mais qui redonne du sens. Vous savez, le triptyque républicain, c'est aussi le grand problème du jour. C'est que toutes les valeurs, si on parle des valeurs, tous les principes, tout ce qui règle notre vie commune est déglingué. La démocratie n'est plus la démocratie, la République n'est plus du tout la respublica, c'est-à-dire l'intérêt général prévalant sur les intérêts particuliers, qui est le sens du mot respublica, du mot république, dont il faut retrouver l'origine. La liberté, l'égalité, la fraternité sont complètement dénaturées. Bien entendu, y compris le terme de liberté que nous invoquons beaucoup. Mais vous savez, il y a deux libertés. Hein. Il y a la liberté des anciens, la liberté des modernes. La liberté des modernes consistant à faire ce qui vous passe par la tête, c'est évidemment une déraison, enfin une dérive terrible du mot liberté. La liberté des anciens, qui consiste à être ce que l'on est sans que personne, aussi peu que de force que possible, viennent entraver votre développement propre, c'est-à-dire le fait de se rapprocher de son être et d'être pleinement ce que l'on est, c'est une conception de la liberté entièrement différente de la liberté capricieuse qui prévaut. Sans parler de l'égalité et de la fraternité, qui sont des termes complètement controuvés aujourd'hui, dont il faut retrouver l'origine. Et l'origine, elle est très souvent d'ailleurs religieuse. Si je pense, alors c'est délicat parce que ça pourrait nous diviser aussi. Ça, il y a le risque de division. Il y a beaucoup de résistants qui ne marcheront pas, évidemment, dans le réensemencement catholique de notre opposition. Mais enfin, je pense que ceux qui se croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, c'est la rose et le réséda, d'Éluard, je crois, ou d'Aragon, je ne sais plus, devraient se comprendre mutuellement, et une partie de la résistance, alors on l'a bien vu à deux reprises d'ailleurs, parce qu'il y a une victoire que les catholiques ont remportée sous la Ve République, plus ou moins récemment, c'est pas si récent que ça, ce sont les manifestations, non pas contre le mariage homosexuel et le déglingage de la filiation, mais contre le service public de l'éducation, le service à l'insertion, c'est-à-dire l'unification de l'éducation dans l'école libre. Ça, on avait réussi et c'était vraiment un mouvement très, 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 très spirituel qui l'avait emporté dans les années, je crois que c'est en 84-85, quand on a obligé le président Mitterrand à supprimer la loi Savary qui supprimait l'école libre, en fait, ça revenait à ça. Bref, il y a, encore une fois, si nous nous retrouvons nous-mêmes, si nous passons du désespoir à l'espérance, si nous revenons aux sources, pour ce qui est des questions économiques, aux sources de l'Évangile, à un certain interdit sur l'argent, à une certaine opprobre sur la consommation et la surconsommation, si nous revenons à une sorte de stoïcisme qui était une des sources du christianisme, si nous revenons à la raison, d'une certaine façon, au logos, nous retrouvons dans nos racines des moyens de résister beaucoup plus forts, à mon avis, que des démonstrations économiques. On a perdu la bataille sur l'Europe. Enfin, on l'a pas perdu parce qu'on avait raison, mais enfin, on n'a pas réussi à redresser l'Europe parce qu'on a instruit la critique de l'Union européenne. Quand je dis Europe, c'est l'Union européenne.
Oui.
Inscrite uniquement dans la critique économique. Mais retrouver la nation, au sens de Jean-Paul II, comme institutrice des hommes, c'est au moins aussi puissant comme une critique de la monstruosité bruxelloise que la dénonciation, je dis au moins aussi puissante, ça ne veut pas dire qu'elle soit secondaire, la dénonciation de ces méfaits économiques. Il faut que nous aussi, nous soyons conscients que, puisque le débat politique s'est déplacé, nous avons, nous aussi, à invoquer notre cosmogonie, notre manière de voir le monde. Quand je dis nous, ça ne sera pas toute la résistance, évidemment, parce qu'il n'y aura pas. Mais ça en sera, à mon avis, la pointe avancée. Et il faut que nous soyons décomplexés de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que nous pouvons parler aux désespérés, justement.
Mais alors, justement, Paul-Marie, ce monde catholique est peut-être inhibé par rapport à cela, puisque, comme vous l'avez dit vous-même, il faut séparer les ordres, il faut séparer le spirituel du temporel.
Et c'est pour ça que je disais que c'était très compliqué.
Et oui.
Parce que, justement, on s'interdit. C'est pour ça que je commençais par la distinction de deux religions. On s'interdit d'enrôler le Christ, si vous voulez.
Ouais.
C'est pour ça que je disais, le roi dort près du livre. Il ne se confond pas avec le livre. Il a son domaine propre, le roi. Mais il dort près du livre, c'est-à-dire qu'il s'inspire. Et votre objection est très juste. Nous sommes pris un peu dans notre propre piège à distinguer le temporel et le spirituel, ce qui est dans l'idiosyncrasie du catholicisme. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à dire une séparation nette, s'inscrit une dérive toujours possible, c'est-à-dire l'idée que l'Église n'intervient pas dans la politique, pour dire les choses dans son application, dans leur application la plus immédiate. Eh bien non, moi je crois que l'Église doit intervenir dans la politique en sachant qu'elle ne doit pas faire autre chose qu'inspirer. Et peut-être appeler les hommes à leur petitesse, ce qui est une façon de désamorcer l'oubris.
Alors ça, je suis d'accord, Paul-Marie, mais ce n'est pas tant comment l'Église doit influer sur le politique qui me pose problème ou question, c'est comment les hommes politiques vont articuler dans leur discours politique un discours spirituel.
Ah ! Faut-il un discours spirituel ? Il faut une inspiration spirituelle. Mais pas nécessairement dans le discours. C'est extrêmement délicat parce que quand je disais que le catholicisme, qui repose beaucoup sur des scepticismes, sur des questionnements, beaucoup plus que sur des réponses, s'empêche lui-même d'être net et clair sur des questions délibérément politique. C'est la question de l'inspiration. Regardez le débat sur l'euthanasie.
Oui.
Pas qui frôle les questions religieuses et théologiques les plus brûlantes. Et il suffit de dire que croire en un autre monde. Alors je dis bien un autre monde parce qu'il faut les séparer les mondes. Hein. La transcendance, oui. L'immanence, c'est pas la même chose. C'est ce qui nous distingue des autres religions. Croire à un autre monde nous interdit d'attenter à la vie parce que la vie est un mystère. À partir du moment où la représentation du monde est duelle, c'est-à-dire elle est faite de deux mondes, un que l'on connaît et un autre qu'on devine et qu'on invoque, évidemment, on s'interdit de toucher à ce qui est transcendant. Voilà. On a la précaution de ceux qui ignorent, de ceux qui sont devant des mystères. Et la vie est un mystère. Aucun scientifique n'a pu dire l'alpha et l'oméga sur le début de la vie et la fin de la vie, enfin la fin de la vie sur Terre. On touche là à des mystères, c'est-à-dire à une autre sphère de la pensée humaine qui est un ensemble de mystères et de silence. Mais que ce silence soit présent. Je n'ajoute pas foi du tout à la phrase d'un logicien fameux, Wittgenstein, qui a dit cette phrase terrible, ce dont on ne peut parler, il faut le taire.
Mmh.
Alors, ce dont on ne peut parler, c'est par exemple le mystère de la vie à propos de l'avortement, ou à propos de l'euthanasie, ou de n'importe quelle manipulation génétique. Il ne faut pas le taire, il faut l'avoir présent à l'esprit. Et c'est la grande subtilité des catholiques, c'est pour ça que nous sommes facilement piétinés, parce qu'on prête le flanc, justement. Enfin, c'est une faiblesse pour ceux qui ne réfléchissent pas. Il faut justement distinguer et faire sa part de mystère à la vie sur Terre et ne pas attenter au mystère. On pourrait objecter la même chose à tout ce qui a voulu modifier l'homme, aujourd'hui le transhumanisme,
oui.
Manipulation génétique d'une manière générale, à toutes les expérimentations comme celle des nazis et apparemment celle des milieux Epstein, parce qu'on commence à en découvrir de belles sur le fameux ranch, qui est au moins aussi important que l'île, et sur les expérimentations humaines qu'on faisait dans un immense
oui.
Du Nouveau-Mexique. D'ailleurs, les investigations ont été arrêtées quand on a découvert qu'il y avait des cheminées. Bizarre, en Nouveau-Mexique, quand même, des cheminées, en train de se chauffer,
oui.
Ont été arrêtés dès 2019, sur ordre d'ailleurs de l'administration fédérale, Trump régnante, c'est-à-dire Trump étant président. Mais je ferme cette parenthèse. Vous voyez, ne touchons pas au mystère de la vie humaine, sachons que c'est un mystère. de la conception jusqu'à la mort naturelle. Qu'est-ce qui fait qu'on meurt? On ne le saura jamais vraiment, en réalité. Qu'est-ce qu'on fait qu'on vit? On ne le saura jamais vraiment. Alors, on s'interdit d'en parler, mais il ne faut pas s'interdire d'y penser et d'y faire référence. Il ne faut pas s'interdire l'invocation. C'est vrai que c'est beaucoup plus subtil que l'espèce de grosse machine de guerre qui est le messianisme de base à la Netanyahou ou à la méthode évangéliste qui consiste à dire Dieu est avec nous, ou à Hitler d'ailleurs, Dieu est avec nous, nous sommes les dépositaires de la vraie foi, de la vraie religion, et nous allons sauver l'humanité. C'est entièrement différent de la cosmogonie catholique. C'est pour ça qu'il faut, ce que je dis là, c'est difficile à formuler parce qu'on a perdu ce, enfin, sauf dans les prônes, et encore quand les prônes sont intelligents, ils ne le sont pas toujours, on a perdu cette dialectique catholique, je dis bien catholique, qui est très particulière et qui est, à mon avis, d'une plus grande sagesse.
On est d'accord que par rapport aux lois sur l'euthanasie ou les lois sur la bioéthique, voilà, eh bien, ce que vous dites sur cette résistance spirituelle va bien au-delà de la simple éthique, qui a montré déjà multiples fois ses limites.
Ses limites, évidemment. Oui. N'attendons pas au mystère.
C'est ça.
Avec un S au mystère. Mais vous voyez, les catholiques ne prétendent pas donner la réponse au mystère. C'est ça. C'est aussi, bon, ça touche aussi des débats récurrents le débat Parménide Héraclite, sur la permanence des idées, la fixité des idées, l'essence des choses, l'immortalité de certaines choses. À quoi les modernes opposent que tout change toujours. Ça touche aussi des débats, mais c'est très difficile de les trancher, hein, sur certaines recherches dans l'ordre médical. Je répète, vivons dans le mystère, et ce qui est mystérieux doit occuper nos âmes, les élever. On doit repérer les signes de ces mystères sur Terre, mais on ne doit pas les résoudre et les mettre au service, c'est ça le messianisme, au service d'une cause terrestre. C'est aussi l'islam. C'est ça notre problème, c'est qu'on est entouré de, j'allais dire, de trois religions qui ne pratiquent pas vraiment la distinction entre l'immanence, les choses d'ici-bas, et l'au-delà.
Mmh.
Et nous sommes les dépositaires de cette petite graine qui, à mon avis, est assez salutaire pour l'humanité. Savoir qu'on sait beaucoup de choses, mais qu'on ne sait pas tout, mais que ce que l'on ne sait pas ne doit pas être pour autant enrôlé, la théologie enrôlée dans des causes terrestres, sans être ignorée, en nous renvoyant toujours à notre misère, notre petitesse et la conscience de choses qui nous dépassent.
Question auquel il fallait s'attendre aussi quand on parle de ce genre de sujet. Même si Paul-Marie Couteau évoque le catholicisme du général de Gaulle, comment espérer? Paul-Marie Couteau justement cite Charles Maurras, qui, le moins qu'on puisse dire, doutait sur ce plan. Comment espérer? Comment donc sauver la France en République?
Ah ben, ça dépend quel sens on donne à ce mot. Si la République et la Respublica de Jean Baudin, c'est-à-dire...
Ouais, avec un petit R, allez.
L'intérêt supérieur, ça me va. Mais je ne crois pas que la République, dans l'acception que la France a donnée à ce mot depuis la Révolution française, est la réponse au problème de la République. La réponse se trouve ailleurs. De même que l'économie n'a pas la réponse aux problèmes économiques, on le voit abondamment. Je crois aussi que la politique n'a pas la réponse aux problèmes politiques. Beaucoup plus, les questions sont beaucoup plus, les réponses en tous les cas, les solutions sont beaucoup plus externes à la politique, extérieures à la politique et peut-être d'autres spirituels justement. ou culturelle à tout le moins, ou civilisationnelle. Et de même, la République ne peut plus, là maintenant, elle est à bout de souffle, elle ne peut plus répondre à ces questions. Ses valeurs ont dérivé, je disais, la liberté a dérivé très loin de son sens premier, l'égalité, la fraternité, la démocratie, même la laïcité, qui est devenue non pas une distinction entre les ordres, mais une opposition farouche entre les ordres, comme si les hommes n'avaient pas une autre dimension que matérielle et matérialiste. Évidemment, elle est très loin de ses bases, cette République, elle est à bout de souffle. La preuve, c'est qu'elle a été régénérée passagèrement, hélas, trois fois hélas, en 58, par un monarchiste. Parce que De Gaulle a été entièrement formé à l'École d'Action française, et d'ailleurs, toutes les lettres qu'il envoie à la suite des dialogues qu'il avait eus à l'Élysée, d'ailleurs, avec le comte de Paris, prouvent qu'il était très sceptique sur les chances de la République, fût-ce la cinquième. D'ailleurs, on voit ça dans le désabusement terrible des chaînes qu'on abat, le dernier dialogue avec Malraux. Il savait très bien qu'il fallait complètement changer de logiciel et que le logiciel républicain ne marchait plus. Bon, ça aussi, introduire dans nos institutions un élément qui soit d'ordre plus mystérieux, comme la tradition dynastique, c'est-à-dire non pas tellement la monarchie, parce que la monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. On dit monarchie, mais on pense souvent au royalisme, et je préfère dire royaliste. Il y a un mystère dans l'efficacité du roi, parce qu'évidemment, rien ne dit que la tradition héréditaire va permettre, et pourtant toute l'expérience de notre histoire a montré le contraire, va permettre de garder l'efficacité, la pérennité et l'impartialité de l'État. Et pourtant, ça a marché. Mais c'est un mystère. Il faut vivre avec les mystères. Et la République n'est plus du tout un mystère. Là, maintenant, elle est une succession de débris. Et peut-être aussi, cet auditeur ou cette auditrice a raison, tout ce que je dis inclut de remettre en cause la forme républicaine de gouvernement.
Ah. Alors pour qui ? Ça c'est un autre mystère. Hein. Là, j'avoue que c'est très mystérieux.
La Providence bon, est faite de mystères, mais elle a son efficacité simplement.
Je ne voudrais pas être désobligeant avec les héritiers.
Comprenez, à l'origine de la conversation, ce que je déteste dans les diatribes messianiques de Netanyahou, de Trump, c'est l'idée que tout est réglé, on a la force. Et la légitimité suffisante parce que Dieu est avec nous. Ben, il n'y a plus de mystère dans tout ça. Il n'y a plus de mystère. Ils ont éliminé tous les questionnements. Le messianisme est pitoyable d'infantilisme en ce qu'il élimine tous les questionnements. Et évidemment, c'est notre fragilité, mais c'est notre fragilité, on la traîne depuis deux millénaires, hein, et peut-être plus. C'est notre fragilité d'avoir beaucoup compliqué les rapports du spirituel et du temporel. Et en même temps, je crois que c'est notre force.
Et quelle efficace, justement, quelle est l'efficace d'une résistance spirituelle dans un monde de prédateurs, dans un monde de carnivores ?
Oui, c'est pour ça que je parlais du carême tout à l'heure. Il faut sortir du monde des carnivores au sens propre, c'est-à-dire des surconsommateurs, ce monde qui est bouffé par ce qu'il bouffe, au point d'être graisseux, adipeux, etc. Même ça se voit à l'œil nu. C'est pour ça que ça marche le carême, c'est parce que ça répond à un besoin humain, à un besoin des jeunes. Il faut sortir de cet enrôlement, cet arraisonnement, comme disait Heidegger, de l'homme par la machine, qui finalement rend l'homme obsolète. Je renvoie à ce livre merveilleux de Günther Anders. Les Allemands ont quelque chose de plus dans la cosmogonie, j'ouvre une parenthèse, dans la cosmogonie occidentale, c'est que les Allemands sont conscients de ces dérives, beaucoup plus que les Anglais ou les Américains qui ne pensent que très rarement, et les intellectuels sont relégués dans les ténèbres extérieures, dans la philosophie, dans la vie politique anglaise et américaine. Les Allemands au moins pensent, fait quand même une certaine supériorité. Il pense, par exemple, je disais, l'arraisonnement de l'homme par la machine. Et ce que l'on a opposé à la machine, ce qu'on a opposé au robot, ben c'est une foi. Mais une foi qui n'a pas nécessairement la réponse à ses propres questions. il faut marcher sur ce fil-là, qui est des questionnements et qui est peut-être une source de retour à l'espérance quand même, parce que le questionnement et le mystère réensemencent un peu la vie spirituelle des hommes. Il faut rendre aux hommes la part de mystère, la part de contemplation. Comment comprendre la marche de l'univers? C'est incompréhensible. Bien, si on le contemple, on redevient peu de choses. Celui qui regarde les étoiles tous les soirs, il est rendu à lui-même, il est en face des mystères. Et c'est ça le début de la sagesse. Et c'est notre manière de combattre et le scepticisme et la déraison totalitaire, messianique et totalitaire. C'est une ascèse de tous les jours. Et je pense que si l'homme moderne est un désespéré, il faut lui dire que séjourner dans la contemplation, séjourner dans le respect de la nature, il y a ce grand nomos qui est la nature, qui est complètement perdu de vue, à commencer par la nature humaine et ses limites, et les limites de la nature humaine, qui ne peut pas faire n'importe quoi en termes de recherche, en termes de science, en termes de pensée extravagante d'un surhomme. Parce que le transhumanisme est un surhumanisme, une façon de dépasser l'homme. Cet emballement de la machine qui aujourd'hui est très en vogue avec les révérences en fait à l'intelligence artificielle, ça dessèche l'humanité de l'homme. Alors que le retour au mystère et le retour à la conscience de notre misère dans un univers dont nous ne maîtrisons rien est peut-être une façon de réespérer. On peut se donner la chance de réespérer. Encore une fois, c'est une espérance qui n'est pas dans l'ordre de l'espoir rationnel ou raisonnable à vue courte. Aller dire ça, si d'ailleurs je le fais, mais je ne vous dis pas pour qui, aller dire ça à des candidats à la présidentielle, ils vous regardent avec des yeux ronds en pensant que ça ne fera pas une voix. Je pense exactement le contraire et je m'excite. Parce que je pense qu'il y a quand même dans notre famille de pensée, vous voyez que je n'ai pas perdu l'espérance, dans notre famille de pensée, il y a quand même au moins un, à mon avis, peut-être deux ou trois personnages qui sont de force à replonger dans les ressorts de la politique française la plus traditionnelle, qui incluent justement, sans que ça les absorbe, toujours ce point délicat, n'est-ce pas, Maffesoli a beaucoup écrit là-dessus, qui inclut sans être absorbé la dimension métaphysique. Voilà. Il faut l'avoir. Le roi dort près du livre, c'est toujours ça. Il faut rester près d'une conception, je dirais, catholique et mystérieuse de l'univers, mais ne pas s'y fondre. Et en tous les cas, ne pas l'enrôler au service de causes terrestres.
Merci pour votre émission en direct, merci pour votre conversation qui nourrit l'esprit et le cœur, nous dit cette auditrice.
Le cœur, très important. Tiens, pardon. Bravo.
Allez-y.
L'esprit et le cœur. Quand nous parlons, évidemment, Radio Courtoisie, comme vous le rappeliez, mon cher ami, nous y sommes depuis longtemps, plusieurs décennies, l'esprit travaille beaucoup. Bon, mais faisons travailler aussi nos cœurs. Le sens esthétique, le sens de la contemplation, tout ça, il ne faut pas réduire, c'est notre fonction pourtant, il ne faut pas réduire l'opposition à ce monde à une succession indéfinie de blabla, parce que d'abord on risque de se répéter, ce qu'on ne manque pas de faire abondamment, mais surtout on perd la dimension qui peut rafraîchir tout notre engagement ou notre dégagement de ce monde, qui est, comme je le disais, la conscience du mystère. Donc, le cœur. Et sortons de la raison en sachant que la raison sans la foi est une déraison, mais que la foi sans la raison est aussi une déraison. C'est ce qu'a pensé Ratzinger. Il faut tenir raison et foi dans une même dialectique, sans les confondre, toujours pareil. Voilà. Distinguer pour unir. Mais commencer par distinguer, c'était évidemment la grande phrase du théologien maritain. Jacques Maritain, distinguer pour ensuite réunir.
C'est ça, exactement. Notre auditeur, Michel Dumas, qui participe à ces libres journaux de géopolitique profonde par son 4-1 hebdomadaire, eh bien, je vous le livre tel quel, celui de cette semaine, celui du 21 mars, jour d'équinoxe de printemps. Vaine est notre vie sans spiritualité, résistant aux démons et sans dualité. Que tout soit un, ô Père, en mutualité d'amour, maudite loi, pour qu'on tue alité. Alors, il nous reste, allez, même pas 3 minutes, cher Paul-Marie, pour une conclusion justement sur résistance et spiritualité. Conclusion rapide.
Voilà. N'ayons pas peur, d'une manière générale, n'ayons pas peur, parce que justement, si on a conscience d'un univers inconnu, mais dans lequel nous baignons dans le mystère, donc n'ayons pas peur, parce que de toute façon, les forces plus puissantes que les nôtres sont infiniment plus puissantes, justement, et peu de choses dépendent de nous, donc n'ayons pas peur, ça ne sert à rien, confions-nous à l'immensité de l'univers. Et n'ayons pas peur précisément d'introduire dans le corpus informel que l'on déploie depuis quelques années pour résister à un monde à la dérive, d'inclure donc cette dimension spirituelle qui a été bannie, et qui a été bannie de par même notre religion, qui est subtile de ce point de vue-là, qui s'interdit d'intervenir directement. Et sortons aussi de la période très matérialiste dans laquelle nous sommes entrés au XIXe siècle, puis au XXe siècle avec le marxisme, et avec, il faut dire aussi, l'opprobre jeté sur les invocations aux communautés religieuses et la différence entre les hommes selon qu'ils croient ou ne croient pas, ou croient à tel ou tel Dieu, qui a été le nazisme. Évidemment, l'inclusion brutale de la dimension spirituelle dans la persécution des nazis nous ont fait penser pendant très longtemps, on a été à cette école-là, qu'il fallait gommer les religions. Mm-hmm. C'est dans la laïcité profonde de notre peuple. Il ne faut pas que les religions accaparent ou réduisent les êtres et accaparent la pensée du monde. Mais elle doit pour autant les inspirer, c'est ce que je répète. Je crois qu'il faut rétablir la balance et ne plus avoir peur, c'est ce que je disais, de parler de la dimension spirituelle des êtres. D'ailleurs, les êtres sont assoiffés aujourd'hui. Les êtres sont très souvent des déserts, ou enfin des terres en friche qui cherchent le mystère comme on cherche l'eau dans le désert. Répondons à cette attente, et je pense qu'on n'en sera que plus puissant, plus serein, et plus disposé à réintroduire la dimension espérante de nos citoyens qui sont amorphes, qui sont hébétés, qui s'abstiennent aux élections parce qu'ils ne croient plus en rien. Et le mot croire dit tout.
Exactement.
Croyons.
Très bien, Paul-Marie. Eh bien, écoutez, cette émission s'achève. On remercie encore au standard Patrice et Sylvie, Arnaud à la technique, Lara qui m'assistait aujourd'hui dans cette revue de presse, et vous, mon cher Paul-Marie. Merci à tous, passez une excellente journée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie. Merci encore.
Vous venez d'entendre le libre journal de Géopolitique Profonde dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 21 mars 2026 de 9h à 10h30 et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.